Radio-Canada, audio.
Numéro 1. Respirez du bas du dos, ouvrez les côtes. Numéro 8. Faire confiance à l'exécution, ne pas envoyer la même information deux fois au cerveau. Numéro 20. Focusser sur le contenu et non la forme. Numéro 28. Numéro 6. Se payer la version longue. Synchroniser respiration et mouvement.
Comme la série de balado s'achève et que j'ai pas envie d'avoir fait tout ça pour rien,
numéro 3.
Je me suis dressé une liste de choses à penser concernant mon bégaiement.
Numéro 17.
Un aide-mémoire.
Se désensibiliser du résultat.
Avec un verbe d'action au début de chaque item.
Retrouver le bégaiement pur.
Des techniques à essayer.
Numéro 30. Réduire la rumination.
Des bribes de philosophie.
Numéro 9. Réaliser que ce n'est pas ma faute.
Un genre de plan de match sans structure.
Numéro 37. Réaliser que ça va bien et que je suis moins loin de l'idéal que je pensais.
Des petites bouées de sauvetage quand j'en ressens le besoin.
Numéro 24. Observer les réactions physiologiques et s'en détacher. Numéro 42. Rire. Numéro 11. Réaliser que c'est de l'orgueil.
Numéro 25. Observer les idées et croyances en temps réel.
Numéro 22. Accepter d'être...
Et si vous êtes en train de vous dire que juste le fait que j'ai une liste montre clairement qu'il faut que je lâche prise, sachez que lâcher prise et dire « fuck off à ma liste » est justement le numéro 27.
Et dire « fuck off à ma liste ». Numéro 31. Provoquer les rencontres et les discussions.
Numéro 29. Tenir au mot original.
Numéro 21. Accepter de bégayer.
Numéro 12. Se demander est-ce que l'objectif de communication est atteint.
Ouais. Bon. Numéro 18. Se désensibiliser de la réaction des
Mais devant l'ampleur de la liste, devant le nombre incroyable de choses à prendre en considération à chaque fois que je parle, à un moment donné, et c'est probablement le but, le mieux, c'est peut-être de se laisser bégayer en paix. Ça devient juste plus simple de se pardonner et d'aller jouer dehors.
Bon, que c'est qu'on fait avec ce problème-là?
Beaucoup de savants grecs identifiaient un coupable, un organe coupable. C'était la langue, le coupable bien commun de toute façon. Alors déjà Hippocrate la jugeait trop sèche. De son côté, Aristote la jugeait épaisse et paresseuse. Et le médecin Galien, lui, c'est un Romain, il considérait que c'était qu'elle était mouillée et froide. Alors déjà, les contradictions sont nombreuses, mais souvent, c'était quand même le même remède. Hein? Donc, c'était la saignée, hein? Le remède traditionnel. Et des fois, quand on voulait être un peu moins violent, on appliquait tout simplement des petites sangsues dans la bouche du patient. Hein? Donc, pour son plus grand confort, évidemment.
Wow. Alain Cadotte, historien.
Mais ce qui est fascinant de voir tout ça, c'est que avec l'émergence de la science moderne, ben d'abord la langue fait souvent partie des coupables et souvent on applique des techniques brutales encore une fois. En fait, on applique un traitement de l'Inquisition probablement parce qu'il est coupable justement. Alors, il y a Diefenbach qui procède à des tortures carrément, donc c'est la chirurgie, on coupe le bout de la langue en triangle. Et on raccommode le tout. Ça, c'est une des techniques. Il devait en avoir 5-6 méthodes. Des fois, c'est à la base qu'on va faire certaines ablations ou en dessus. Alors donc, on se gêne pas pour charcuter finalement la langue de la personne pour, selon les endroits qui sont fautifs, pour qu'elle puisse fonctionner à nouveau.
Et ça fonctionnait, ça?
Ben en fait, Diefenbach proclamait haut et fort que ça fonctionnait. Les savants français, les chirurgiens français qui ont essayé exactement les mêmes méthodes ont complètement échoué. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il était relativement pressé de s'en aller une fois que le succès était obtenu. Alors, faut comprendre que quelqu'un qui vient se faire couper le bout de la langue est pas trop va parler beaucoup plus lentement et bégayera probablement moins. Alors donc, mais avec le temps, les problèmes revenaient. Alors, c'était une solution toute temporaire, mais pas très douce non plus.
Alors que là, on est au quoi, 18e?
On est rendu au 19e siècle, là, carrément, wow, avec ces chirurgies-là. Et au tournant du siècle, donc du 19e au 20e siècle, avec l'apparition de la psychanalyse, bien, encore une fois, il y a une attitude un peu culpabilisante. Donc, on associe le bégaiement à une névrose. Hein? Donc, des fois, il s'agit tout simplement du désir inassouvi de téter. Et là, donc, on tète les mots au lieu de téter le lait maternel. Et d'autres associent ça au fait que, d'une part, le sujet veut s'exprimer, de l'autre, il hésite parce qu'il ne veut pas révéler des secrets inavouables. Alors, encore une fois, on est un peu dans la culpabilité, mais là, on est au niveau du cerveau, de l'esprit humain, de la psyché humaine.
Parce qu'il y a quand même beaucoup de mythes là, qui circulent autour du bégaiement. Ce que je vois de plus gros, là, c'est... Le bégaiement est causé par un traumatisme.
Oui, je l'ai entendu souvent, ça.
Moi, quand j'entends ça, là, j'ai frisson, là, le poil me dresse. Là,
c'est une fausse croyance qui existe sur le bégaiement. Puis là, je parle pas de traumatisme crânien, ou de... mais je parle de traumatisme psychologique. Il y a ce qu'on appelle un bégaiement psychogénique qui... surviendrait suite à un traumatisme psychologique comme une très grande peur.
Là, je te parle de quelque chose de big, là. Genre, tu sais, assassinat devant lui, tu sais, un méga traumatisme là, qui vient modifier le fonctionnement du cerveau.
Et non pas le type de choc qu'on a quand on ne reçoit pas à Noël l'étoile noire pour nos figurines de Star Wars qu'on nous avait pourtant promis. Exemple comme ça. Là.
Mais c'est des... T'sais, dans la proportion de gens qui bégaient, les gens qui auraient un bégaiement psychogénique, c'est une fraction. Là. C'est très, très rare. Là. Donc, t'sais, je dis pas que ça n'existe pas, mais quand on parle de bégaiement développemental persistant comme toi et moi, on a, ce n'est pas dû à un traumatisme. C'est pas vrai.
Fait que j'ai passé des soirées à chercher un traumatisme. Absolument rien, c'est ce qu'il est en train de me dire. J'en ai pas trouvé. J'ai eu des bons parents, je suis désolé, mais...
Alors, la prochaine fois que vous rencontrez une personne bègue, assurez-vous que c'est par pur voyeurisme que vous lui demandez de parler de son enfance malheureuse et non pour comprendre d'où vient son bégaiement. Merci. Lorsque j'ai rencontré pour l'entrevue Geneviève, l'orthophoniste que vous venez d'entendre, en partant de chez elle, elle m'a prêté des livres et en a profité pour glisser dans mon sac un rectangle en carton. Un genre de carte postale bleue. En fait, des vagues bleues entrelacées de vagues turquoises. Le drapeau de la fierté bègue. Je savais pas que ça existait. Ni le drapeau, ni cette fierté-là. Je l'ai placé sur la petite table d'entrée dans mon appartement pour le garder dans mon champ de vision mentale. Et je sais pas trop quoi penser à chaque fois que je le vois. Je pense pas que je serai jamais fier d'être bègue. Je pense que je suis fier de moi malgré le bégaiement, ou même fier de moi avec le bégaiement. Mais fier du fait que je bégaye, là, je vois pas. Peut-être que je comprends pas ce que ça veut dire, un drapeau. Geneviève est décidément encore à des années-lumière de moi dans l'espace de l'acceptation. Et de ce que je comprends de son parcours, un switch important s'est fait quand elle a passé du modèle médical du bégaiement au modèle social.
Mais on sait que passé un certain âge, bien, le bégaiement est là pour rester. Fait que, tu sais, essayer de se guérir constamment, ça crée en nous, ça génère en nous un sentiment d'échec. Puis il y a plusieurs personnes qui bégayent qui m'ont dit qu'ils ont un sentiment d'être un échec thérapeutique, tu sais, donc cette notion-là que l'orthophonie, que la thérapie n'a pas fonctionné parce que je bégaye encore, c'est vraiment issu de la conception du modèle médical, tu sais, c'est la personne qui doit changer. Si la personne ne bégayait plus, elle ne vivrait plus tous ses problèmes, tu sais. Et dans ce modèle-là, on conçoit que c'est le bégaiement qui apporte des problèmes parce que la personne bégaye, elle va vivre de la discrimination, de l'anxiété, elle va vivre du stress, elle va vivre... C'est comme si c'est le bégaiement qui crée ça. Mais il y a le fait d'être dans un environnement qui n'est pas adapté à ton corps aussi. Le modèle social nous invite à voir les incapacités comme des différences, comme des possibilités d'être un ou une humaine en ce monde. Et ça serait, dans ce modèle-là, dans cette approche-là, ça serait la responsabilité de la société de faire en sorte que le plus de corps possible soient les bienvenus dans le plus d'endroits possible.
Et je dois admettre que c'est ici, lors de notre conversation, dès le début, en fait, que j'ai décroché un peu et que le vieux réactionnaire que je suis a soudainement eu 18 objections qui me sont arrivées en même temps. Je vous épargne la discussion qui a suivi où j'avais des mais à toutes les phrases, mais je vous résume. J'aime juste pas blâmer les autres. Ça vient de mon éducation et de ce que j'ai appris en chemin, faut croire. Vous avez peut-être remarqué au fil des épisodes que j'ai le talent particulier de revirer les choses contre moi. Oui, c'est un réflexe, mais c'est aussi devenu une philosophie. Je prends Gandhi bien trop au pied de la lettre quand il dit « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Et je trouve qu'on a le blâmage de la société facile en ce moment. Qu'on se déresponsabilise bien trop et qu'on commence à exiger des autres le genre d'ouverture qu'on n'a pas nous-mêmes. Et surtout, je trouve absurde de demander aux autres de ne pas avoir les préjugés que j'ai moi-même à propos de mon propre bégaiement. Et j'en ai pas mal. Mais je me suis rendu compte que je me battais un peu tout seul dans mon appartement parce que Geneviève me suivait dans tout ça avec un sourire et un bon dosage d'idéalisme et de lucidité.
C'est pas... La question, c'est pas de dire « ben moi, j'ai aucune responsabilité dans mon bien-être comme personne qui bégaye », mais c'est que la responsabilité n'est pas que sur mes épaules, tu sais. Les personnages dans les films ou dans les médias qu'on consomme, les gens qui ont accès à ces espaces-là correspondent souvent à un idéal. T'sais. C'est tous des gens qui sont considérés, ben, qui répondent à des standards de beauté pour la parole, mais qui bégayent pas, qui cherchent pas leurs mots, qui répondent à des standards. Puis quand toi, tu réponds pas à ces standards-là, ben ça t'envoie le message que t'es pas le bienvenu dans ces espaces-là. Puis le fait qu'on représente pas certaines personnes, et dans ce cas-ci, qu'on représente pas le bégaiement, ben c'est une invisibilisation, tu sais. Le fait que ça soit pas représenté et que quand ce l'est, c'est associé souvent à des préjugés, donc à des personnages qui... bégaient dans une partie du film parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, mais là, ils traversent une quête où ils ont confiance en eux, puis ils bégaient plus. Tu sais, où il y a certains films où c'est ridicule, mais comme le personnage bégait, a du sexe pour la première fois, bégait plus. Tu sais, c'est... Toutes ces idées-là où il y a le film culte vole au-dessus d'un nid de coucou. Le personnage bégait, puis c'est complètement ridicule. Là. Il a juste l'air d'être niaiseux, peut-être un imbécile. Tu sais, toutes ces images-là, même si on n'a pas des préjugés clairs, tu sais, même si c'est pas flagrant ce qu'on a vécu dans notre vie, n'empêche qu'on navigue dans un monde que les histoires que l'on se raconte à propos du bégaiement sont inhéremment négatives. Puis ça, ça a un effet sur nous. Puis tu disais...
Si, en bout de ligne, je reste sur mon principe de pas blâmer les autres pour mes problèmes, que je tiens à être le seul responsable, il reste que je dois admettre que les préjugés que j'ai à propos du bégaiement viennent de quelque part. Si je me tape dessus depuis le début de l'histoire, c'est quand même en utilisant les mains du collectif. Si je me diminue à cause de mon bégaiement, c'est moi qui le fais, mais avec les arguments que j'ai appris de nous tous. Donc oui, je me range aux arguments de Geneviève, mais juste si on dit que c'est de la faute à personne en particulier, qu'on accepte d'où on vient et qu'on se dise que ce serait important que la culture change, que ça prend du temps et que le pointage du doigt offusqué campe juste tout le monde de son bord de la clôture. Tout est dans le ton. Mais je pense qu'on peut tous s'entendre sur le fait que ce serait mauditement le fun de vivre dans un monde où le petit dramatique ne se serait pas senti obligé de manger du sable. Et c'est dans le but d'être constructif qu'un mouvement américain a commencé à parler d'accommodement.
Des fois aussi, il y a des accommodements qu'on peut faire, par exemple, dans certains milieux de travail ou à l'école, des fois au cégep ou à l'université, s'il y a des situations de plus anxiogènes pour la personne de présentation orale, par exemple, on peut aller chercher des accommodations de présenter devant moins de gens. Ou il y a des choses quand même qui peuvent être faites selon les besoins de la personne.
Mais ça ouvre un grand débat. L'idée de l'accommodement rencontre aussi de l'opposition. Parce que si on prend ce cas-là de l'examen oral... au secondaire ou au cégep, qui est le cauchemar avoué de plusieurs personnes bègues, moi compris.
La question se pose. Est-ce qu'on en dispense les personnes qui bégaient ou pas? Parce que ça semble une bonne idée, la tolérance, le respect des compétences, etc. Mais quel message ça envoie finalement aux jeunes? Que de parler d'une autre façon, plus lente, moins fluide, ça devrait être évité complètement? Qu'est-ce qui stigmatise le plus? Est-ce que la solution ne serait pas plutôt que les évaluateurs ne tiennent pas compte de la fluidité de la parole? Bref, est-ce qu'on encourage l'accommodement ou l'idée voulant que le bégaiement ne devrait pas nous freiner? On en fait un problème ou pas? Parce que, et là je tiens à dire à quel point ce que je veux dire est uniquement mon point de vue personnel, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu réducteur à l'idée de ce que je vois comme un traitement de faveur. Et avoir un traitement de faveur de la boîte où je travaille parce que je bégaye, non merci. Avoir priorité sur quelqu'un pour une raison autre que mes compétences, non merci. Douter si on m'engage à partir de maintenant, si c'est pour mon talent ou pour mon bégaiement, non merci. Demander un rabais sur les interurbains parce qu'à la minute je dis quelques mots de moins, non merci. Me donner un privilège alors que mes collègues de travail ont peut-être des enjeux encore plus gros, mais moins apparents que les miens. Non merci. Non merci. Non merci. Et c'est peut-être ça, pour moi, ma version de la fierté bègue. Mais, Michel, dis-nous donc ça. Je veux pas faire de gaffe. Qu'est-ce qu'on fait devant une personne qui bégaye? Vite de même, d'instinct, je dirais rien. Mes amis font rien quand je bégaye, dans le sens où je ressens même pas l'existence de mon bégaiement dans leur face, dans leur corps. Ce qui empêche pas certains, des fois, quand le timing est bon, de sortir une bonne joke de bègue bien placée à mes dépens, parce qu'au-delà de mon bégaiement, j'ai besoin de complicité. Il y aurait, dans l'absence de joke à propos de ça, entre amis proches, quelque chose de précautionneux qui me taperait ses nerfs. C'est une complicité complète que je veux. Parce que quand il y a de la complicité, il n'y a plus de gaffe possible. Donc, soit que votre réaction ne change pas du tout, ce que je préfère, ou bien vous adressez mon bégaiement avec une candeur totale. Jasons-en, ça ne me dérange pas. C'est entre les deux que ça se gâte. Le petit rire gêné, le look de pitié, le figement sur place voulant cacher une réaction plus viscérale. Bref, toutes les réactions qu'on a devant l'inconnu. Ah oui, détail. Que ce soit dans les îles du Pacifique ou dans le Grand Nord canadien, j'ai remarqué une constante. Que tout le monde a le goût de volontariser le fait qu'ils connaissent un autre bègue. Généralement un cousin. Alors, si vous y allez pour la candeur, sachez que je fais un réel effort pour comprendre que c'est important pour vous de me mentionner ça. Parce que moi... Tout ça est évidemment tout à fait subjectif. Et c'est pour ça qu'il existe une autre approche pleine de bonne volonté qui consiste à demander à la personne bègue ce qu'elle veut. Mais comme dit Geneviève...
Moi, personnellement, si on me demande ben, comment tu veux que j'agisse avec toi, ben, je dirais, oh là, la personne a ressenti le besoin de me demander, donc
je suis
une exception. Oui.
Mais de façon plus concrète, la palme de la question la plus demandée va à Michel, est-ce qu'on peut / doit finir tes phrases à ta place? D'abord, réglons quelque chose. Si j'ai de la difficulté à sortir le dernier mot de la phrase, c'est pas parce que je trouve pas le mot. Je sais exactement quel mot je veux dire. Je peux pas vous expliquer à quel point je sais quel mot je veux dire. Il y a une enseigne au néon juste derrière mes yeux qui flash et qui me rappelle à quel point je le sais, ce mot-là, et à quel point c'est juste imbécile que je sois pas capable de le sortir, ce mot-là, que je connais, je vous jure. Je sais même ce qu'il veut dire. Je connais aussi 18 presque synonymes, et si j'ai pas changé le cap rendu ici vers un mot plus simple, c'est que j'ai eu le temps d'analyser tous ces autres mots-là et que je juge encore, peut-être à tort, que ça vaut encore la peine que j'utilise celui-là plutôt qu'un autre. Et de toute façon, l'idée serait peut-être bonne et sauverait effectivement du temps si j'arrêtais de dire le mot une fois que vous l'avez dit à ma place. Mais non. Têtu comme je suis du genre à me rendre au bout du supplice de ma phrase de toute façon. On n'est pas plus avancé. Se faire finir sa phrase par un autre, c'est ce que j'entends dans la communauté comme étant la chose à ne pas faire. Mais dans mon cas, si vous tenez à me montrer en complétant ma phrase que vous vous souciez de moi, et que vous sentez le besoin de faire acte de charité, allez-y. Je suis capable de reconnaître une bonne intention quand j'en vois une. Mais j'avais aucune idée que, là-dessus, les études scientifiques semblent me donner raison. Que les gens font ça par bonne volonté, parce qu'ils sont juste pas capables d'analyser la bonne cause au blocage.
On essaie d'aider la personne en trouvant les mots, parce que c'est les dysfluences typiques, on trouve pas les mots, alors on aide la personne. Mais c'est comme une réaction tout à fait naturelle par rapport aux dysfluences qu'on présume c'est ce type de dysfluence. Ça a l'air différent, mais on essaye avec les règles qu'on connaît pour les résoudre.
Simone Falk est professeure agrégée en neurolinguistique au département de linguistique et de traduction de l'Université de Montréal. Et elle est membre du BRAMS, le Laboratoire international sur le cerveau, la musique et le son. Elle m'a parlé de ses recherches actuelles sur le bégaiement.
Pour avoir une conversation, il faut toujours deux personnes. Et dans la recherche sur le bégaiement, on a beaucoup regardé les personnes qui bégayent, comment elles parlent, comment elles articulent, comment ils gèrent leur bégaiement. On a moins regardé les personnes avec qui ils parlent, comment eux, ils réagissent, c'est quoi leur rôle, c'est leur influence sur la façon dont on communique et qu'on converse. Parce que moi, j'aime bien l'exemple que de parler entre nous, c'est comme une improvisation musicale un peu. Bien sûr, on échange des contenus, on échange nos idées, nos visions, on veut quelque chose de l'autre personne dans la plupart du temps. Mais aussi, on fait comme une improvisation musicale langagière qui fait en sorte qu'on échange les paroles, on échange d'une manière spécifique comment on parle, la hauteur, l'intonation, la mélodie et surtout aussi le rythme là-dedans.
Et c'est ce qui explique que deux meilleurs amis finissent par parler de la même façon. Il y a une convergence d'expression, de code rythmique, de façon de rebondir sur la parole de l'autre qui font que le lien se crée. Et c'est aussi un jeu qui se fait inconsciemment quand on rencontre une nouvelle personne, dans le but d'établir ce lien-là. Mais face à une personne qui bégaye, le jeu habituel ne fonctionne pas comme d'habitude. Le corps et le cerveau ne savent pas trop comment réagir, il ne comprend pas les codes. C'est comme jouer au tennis et que la balle ne revient jamais à nous au moment et à la place où on l'anticipe. Surtout si on n'a pas d'expérience face au bégaiement.
Parce que dans le bégaiement, combien de personnes on a déjà rencontré qui ont le bégaiement. Moi, j'en ai rencontré beaucoup parce que j'ai fait de la recherche là-dessus, mais je sais que ben même vous m'avez mentionné que dans votre vie, vous n'avez pas tant rencontré des personnes qui bégayent. C'est très rare. Alors, les connaissances sont minimales à comment cette personne-là va produire sa parole. Ce n'est pas un système de production connu. Disons, on est habitué à des personnes qui ont, par exemple, un accent, qui parlent une autre langue, ou qui, les enfants qui ne savent pas encore parler comme les adultes. Il y a des situations qui sont quand même assez connues, mais le bégaiement, c'est justement une de ces situations où l'interlocuteur, souvent, n'en sait rien.
Les gens ne savent pas, ce qui provoque probablement une partie du malaise.
Est-ce qu'il doit avoir des mécanismes d'affiliation, de rythmicité tout de même, mais c'est probablement plus difficile. C'est déjà ça ce qu'on veut voir. Est-ce que c'est plus difficile pour une personne qui ne bégaye pas de parler avec une personne qui bégaye que de parler avec une personne qui ne bégaye pas? Et aussi pour une personne qui bégaye, est-ce que ça va être plus facile de parler avec une personne qui bégaye qu'avec une personne qui ne bégaye pas? Parce qu'il y a comme une affiliation entre les systèmes moteurs derrière.
Le Cap, Paris, Lyon, Clermont, Percé, Le Caire.
Munich, Genève, Lyon, Tunis, Québec.
Et c'est pour quantifier tout ça que je me suis retrouvé avec une quarantaine d'électrodes sur la tête en participant à leur étude. J'ai joué le rôle ici d'une personne qui fait face à une personne qui bégaye ou pas.
Le Cap, Clermont, Lyon, Bordeaux, Percé, Le Caire,
Paris, Genève.
Je dois répéter une série de mots influencés par une image qui apparaît à l'écran, en répondant à un échange où l'autre personne est parfois fluide, parfois bègue, afin de voir de quelle façon les processus neuronaux sous-jacents de mon cerveau sont influencés.
Bordeaux, Percé, Le Caire,
Paris, Genève, Lyon.
De quelle façon, si la personne bégaye ou pas, que mon cerveau se prépare ensuite à produire sa propre parole.
Là, on regarde ce qui se passe dans le moment où on commence à préparer sa propre contribution. Et on veut voir si le cerveau doit mettre plus d'efforts dans cette préparation selon le contexte, selon le partenaire? Est-ce qu'il y a justement des éléments dans le rythme de l'autre personne qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas? Alors, on présume déjà de base que quand on connaît, c'est plus facile, on va avoir moins d'efforts. Quand on ne connaît pas, ça va peut-être être plus difficile. Mais on n'a pas encore les résultats, alors on va déjà essayer de comprendre ce qui se passe. Je vous reparle avec les résultats.
Mon expérience personnelle est sans doute pas significative pour les vrais résultats de recherche qui viendront, mais je dois avouer que j'avais l'impression de travailler beaucoup plus lorsque ma réponse suivait une parole bégayée, même pour moi qui est bègue. J'avais jamais réalisé à quel point je vous faisais travailler quand on se parle. Ou plutôt, je m'en doutais. Et cet effort-là que je semble vous demander en plus, c'est une des grandes raisons pourquoi j'ai de la difficulté à accepter tout ça. Et ça viendrait peut-être confirmer mon impression de ces quelques fois-là où mon bégaiement semble avoir nui au lien que j'ai essayé d'établir avec certaines personnes. Là, j'extrapole pas mal plus que je devrais, évidemment. Mais il y a une chose que j'ai l'impression de saisir de la démarche et qui s'y sera peut-être prouvée un jour, c'est que plus les gens non bègues seront exposés aux personnes bègues, plus les codes vont être clairs, plus on a une chance que la partie de tennis soit intéressante, plus l'improvisation musicale pourrait être belle. Et c'est là que la normalisation du bégaiement aiderait. Et c'est justement sur ça que Geneviève travaille avec ses recherches sur la visibilisation du bégaiement dans les médias. C'est ce qui ferait que Nicole n'avait pas remarqué quand je lui ai dit que je bégayais plus en montant à Val-d'Or. Et ce serait peut-être soudainement une justification à ce que vous écoutez présentement. Mais, pas de pression, je veux surtout pas influencer les résultats de recherche.
À ce jour, il n'y a pas encore de médication non plus, hein, tu sais, reconnue et sécuritaire pour diminuer le bégaiement, là, vraiment, qui pourrait être vendu à grande échelle, là, ça n'existe pas encore.
Mais comme le dit Judith, la recherche se continue aussi sur d'autres fronts.
Et on est en train de faire, d'ailleurs, une orthophoniste pharmacienne. Elle a les deux professions. Et moi, on est en train de faire un travail pour essayer de tout documenter dans les dernières années, là, les 30 dernières années, qu'est-ce qu'il y a eu comme essai clinique, tu sais, avec des différentes molécules, parce qu'il y a des molécules qui diminuent le bégaiement, mais il y en a qui augmentent le bégaiement aussi. On appelle ça du bégaiement pharmaco-induit, pour essayer de mieux comprendre, parce qu'il y a des gens, justement, qui ont des TDAH, qui vont prendre certaines médications, ça augmente les disfluidités, tu sais. Fait que c'est quand même important de savoir c'est quoi l'effet de la médication d'un sens ou de l'autre, là, qui augmente ou qui diminue. Puis dans la diminution du bégaiement, tu sais, il y a eu des grosses études, là, tu sais, Pagoclone, il y a eu Risperdal, des types de médications, mais qui sont des antipsychotiques ou d'autres grandes classes de médications, mais pas pour le bégaiement, pour une autre problématique X, là, tu sais. Mais tout ça pour dire que pour l'instant, tu sais, c'est pas assez concluant. Puis ce qui arrive, en fait, en bégaiement, c'est que c'est toujours un petit bassin de gens. Puis je sais pas pourquoi qu'il n'y a pas plus de lobby, justement, pour essayer de développer ce plan-là, tu sais, de la médication, parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui prendraient une pilule, tu sais, pour moins bégayer.
Et je serais tellement de ceux-là. J'ai lu à propos de certaines personnes qui refuseraient de la prendre, que le bégaiement fait tellement partie d'eux que ce serait une perte plus grande qu'un gain. Je pense que là-dessus, ma peur de l'inconnu est probablement moins grande que celle du connu. Mais j'ai quand même posé la question à mes compatriotes.
Oui. Si j'ai toujours dit ça depuis un bon bout, là, si j'avais 1 million, je mettais la moitié sur le bégaiement. J'ai l'âme d'un conteur. J'aime raconter des choses. Et la moitié de ma vie, c'est vraiment ça. Je suis écrivain, je suis auteur, compositeur. La moitié de ma vie, c'est parler aux gens. Donc, c'est mon outil principal, comme quelqu'un qui chante, qui perd la voix. Si elle avait 1 million, est-ce qu'elle mettrait la moitié sur la voix? Elle mettrait 1 million peut-être sur la voix. Donc, si j'avais une pilule, est-ce que j'aurais pris la pilule sans effet secondaire, etc.? Oui, puis même s'il y a, avec quelques effets secondaires, j'aurais pris quand même.
Oui, je la prendrais. Je la prendrais. Moi, je suis comme... Je prends déjà des pilules pour d'autres affaires, là, okay. Tu sais. Et peut-être, justement, tu vois, là, je parlais d'anxiété. Moi, j'ai un diagnostic d'anxieux chronique. J'ai eu des époques, j'ai eu des périodes dépressives dans ma vie. Ça fait qu'à un moment donné, j'ai commencé à prendre des antidépresseurs qui sont des anti-anxiolytiques. C'est la même affaire. C'est le même médicament. Et sais-tu, je pense que je bégaye moins depuis que je prends ça, déjà, parce que la part d'anxiété qui de mon bégaiement à moi a diminué beaucoup.
Parce que je considère avoir assez souffert de ce problème-là qui est le bégaiement.
Non. Non, puis justement, je suis pas la seule.
Mais explique-moi donc toi, d'abord.
Ah, moi? Je pense que le bégaiement vient jouer sur notre rapport à la vulnérabilité, notre rapport au silence, notre rapport aux normes de communication, notre rapport à qu'est-ce qui est beau versus qu'est-ce qui l'est pas. Comme je trouve ça beau dans le bégaiement, je puise une force de résistance à certaines normes qui m'inspirent beaucoup.
Que ça ait forgé ton caractère, je peux le comprendre. Que tu vois les choses différemment à cause de ça, je le vois aussi. Mais si on t'offre de régler le problème, tu refuserais.
C'est pas tous les jours comme ça, mais il y a des jours où je me trouve belle quand je bégaye. Puis je trouve ça des fois amusant de voir la réaction des gens. Ma vie serait vraiment... Tu sais, j'ai construit toute ma vie autour de ça. Puis non seulement ça, c'est comme... Tu sais, je te regarde bégayer maintenant, puis honnêtement, c'est sincère. Là, je trouve ça vraiment beau. Genre, je me sens bien avec des gens qui bégayent. Je trouve vraiment que ça apporte quelque chose de plus à la communication. C'est... Je trouve ça le fun de t'entendre parler de ton bégaiement. Puis même si tu parlerais de n'importe quoi, là, d'une toupie, là, je serais comme... Tu sais... C'est ça. Genre... Les gens qui bégaient dans ma vie, c'est les connexions les plus fortes que j'ai. Je me sens à la maison avec une personne qui bégait.
À propos de ma toupie, je voulais te parler. Mais à chaque fois que j'embarque sur un plan, une thérapie ou quoi que ce soit, j'ai l'impression que je rajoute une couche de contrôle ou de tentatives de contrôle à toutes sortes d'autres couches de tentatives de contrôle, ce qui fait que, je veux dire, j'ai pas de chance de m'en sortir.
Puis quand tu fais des démarches, est-ce que tu la fais pour t'approcher de ce qui est important pour toi ou pour t'éloigner de ce que tu veux pas penser?
Oui, si je veux arrêter de bégayer, c'est parce que j'ai mal. Et c'est ici qu'on atteint le cœur du problème, selon moi. Parce que chaque fois que j'essaie de me rendre au bout du processus d'une thérapie, j'ai l'impression de m'enfoncer un peu plus. Parce que je le veux plus. Parce que quand je viens pour parler, plus que j'ai envie de transmettre, plus que mon cerveau s'emballe, plus que je veux bégayer. Et donc, la volonté même de parler est mon plus gros obstacle. Autrement dit, comment réussir quand tu es en secondaire 4 à séduire la fille qui semble uniquement attirée par les gars qui se foutent d'elle? Et où, plus tu veux, moins ça marche. Je parle pas du tout par expérience.
But is it all that still a kind of strategy?
Parce que dès qu'on veut quelque chose, on tombe inévitablement dans une forme de stratégie. Et c'est justement la présence de stratégie qui nous empêche d'atteindre le but. Ce que je veux dire par là, c'est... Si on se donne tout ce trouble-là, c'est qu'à quelque part, il y a une volonté. Comment est-ce que je peux m'éloigner de la volonté suffisamment pour être efficace en bout de
ligne?
See, that is a fantastic question. Right, there's a paradox here.
Il y a un paradoxe ici. Quand on lit les vieux manuscrits bouddhistes à propos de l'illumination, tu peux pas essayer. Si tu es assis et que tu veux atteindre l'illumination, tu y arriveras pas. Mais si tu es assis, c'est quand même bien parce que tu veux atteindre l'illumination, sinon qu'est-ce que tu fais là? C'est un paradoxe vieux comme le monde. Comment arriver à obtenir quelque chose qui s'obtient seulement si on le veut pas?
In which achieving it is contingent on not wanting it.
Right.
The answer I'm going to give is probably unsatisfying.
La réponse que je vais te donner ne sera pas satisfaisante. Je t'avertis.
J'ai dit plus tôt que ceux qui réussissent à accepter leur bégaiement finissent par être plus fluides en bout de ligne. Mais si tu le fais pour ça, ça ne fonctionnera pas. Il faut que le but soit « je vais essayer de vivre le plus authentiquement possible. Je vais bégayer le plus ouvertement possible. Et si malgré tout je bégaye autant, tant pis. Et si je bégaye moins, tant mieux. Mais ça ne peut pas être mon but. » Parce que ça va entraver le processus. Alors, je pense que le plus difficile dans tout ça, c'est d'être honnêtement correct avec le fait de bégayer. Et ça, c'est vraiment pas facile.
Puis c'est pas non plus l'objectif à atteindre pour tout le monde, d'accepter le bégaiement, de se l'écrire sur un T-shirt, « Je bégaye ». C'est pas l'objectif pour tout le monde. Il y en a que oui. Il y en a que oui, ça peut être ça. Puis il y en a qui le font avec plaisir. Puis tu sais, il y a plein de mouvements, de stuttering pride, la fierté de bégayer. Ça existe. Mais moi, concrètement, ce que je vois dans le bureau, ils me regardent, ils sont comme, t'es-tu malade, toi?
Et c'est en plein là que je suis présentement. C'est qu'on m'offre un peu à le voir autrement. La possibilité que ça me dérange plus tant que ça, puis que même j'en profite. Puis même ça, cette perspective-là, d'être heureux avec mon bégaiement, c'est une déception.
J'ai l'impression que la partie deuil est aussi bien présente. Faire le deuil de cet idéal qui est en toi, puis qui est normal, tu sais.
Puis c'est une position, moi, je trouve, qui est tout à fait correcte aussi. De dire, je vais jamais l'accepter, non. Mais je peux me rapprocher quand même, puis de mieux vivre avec, puis de le tolérer. Mais de l'accepter, non. Ça, je l'entends souvent, moi. Puis c'est correct. Moi, je trouve ça vraiment correct.
Lorsqu'un client entre dans notre bureau pour une première fois, il veut qu'on règle son problème. Qui va voir un spécialiste en disant « Hey, pouvez-vous m'aider à accepter mon problème? » Savez-vous, j'ai vraiment envie d'accepter mon problème. Personne ne dit ça. Lors d'un colloque sur le bégaiement auquel j'ai assisté, j'ai eu la chance d'entendre le Dr Farzan Irani de l'Université de l'État du Texas, qui s'adressait à ses collègues orthophonistes. L'autre question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on leur demande d'accepter juste la façon positive ou est-ce qu'on leur ouvre la porte au négatif? On est tous entraînés à voir le positif et à chanter Kumbaya. Mais la question qu'on doit se poser, c'est dans le continuum d'acceptation, est-ce que ça inclut aussi que ce soit correct, certaines journées, de juste ne pas l'accepter? Et que dans mon cas, accepter qu'il y a des choses que j'accepterai peut-être jamais, c'est aussi une forme d'acceptation. Et c'est sur ça que j'avais prévu de terminer la série. Quand je dis que j'avais prévu, c'est qu'est venu un moment tout de suite après que le projet a été officialisé au début, où j'ai réalisé qu'étant donné que je tenais à être honnête dans mes réflexions et que je sais qu'il y a des sujets sur lesquels j'évolue pas vite, je me suis trouvé soudainement apeuré que j'arrive à la fin de la série, présentement, et que j'ai pas le feeling d'avoir évolué tant que ça. Que j'haïs autant le fait d'être bègue et que je vois pas de rédemption possible. Donc, lorsque, dès ma première sortie, qui était ce congrès de bégaiement-là, j'ai entendu le docteur Irani sortir cette magnifique phrase que j'ai interprétée à tort ou à raison comme « c'est de l'acceptation aussi que d'accepter de pas accepter », je me suis dit « OK, j'ai ma fin, je suis correct. Même si j'évolue pas, j'aurai ma porte de sortie. » Et sincèrement, maintenant que je suis à la fin du projet, c'est encore une phrase qui résonne beaucoup pour moi. Mais, c'est pas vrai qu'il y a rien qui a changé. Je suis le premier un peu surpris du chemin de fait. Entendons-nous bien, acceptation, c'est encore un trop grand mot. J'espère que vous vous attendiez pas à ce que je devienne un évangéliste du bégaiement, c'est pas le cas. Mais il y a une curiosité qui s'est installée. C'est rendu que je lis des livres sur le bégaiement, même s'il est trop tard pour que ça influence le balado. Je reste en contact avec les gens que j'ai rencontrés et j'ai même envie d'en rencontrer d'autres. J'avais évidemment aucune prétention de faire le tour de la question et j'espère que d'autres vont raconter leur propre histoire parce que j'ai soudainement, honnêtement envie de les entendre. Est-ce que tout ça a amélioré ma fluidité? Pantoute. Même que j'ai eu des passes au travers du processus où j'ai été pire que jamais, à force de mettre le focus dessus, j'imagine. Mais je pense qu'on ne peut pas mettre le spotlight sur ce qu'on considère notre plus grand point faible sans en ressortir différent, mettons. Ce qui m'a aidé à prendre un peu le virage, c'est le fait, tout simple, voulant que le bégaiement soit ni curable, ni de ma faute, ni un signe d'un manque d'intelligence, de confiance ou autre, ni un manque d'effort de ma part de régler le problème. Donc, si c'est le cas, si je peux rien me reprocher dans le fait que je bégaye, bien, ça devient juste de l'ego et de l'apparence. Et en ce qui concerne le regard des autres, si les gens savent comme moi que c'est ni curable, ni de ma faute, etc., bien, tout ce qui reste, c'est la pure différence, à laquelle on s'habitue en s'exposant à ça. Que la solution collective, c'est peut-être juste que le monde sache ces faits-là. Pour soudainement, plus avoir rien à trouver drôle ou étrange au bégaiement. C'est pas tant de la compassion que ça prend. C'est peut-être même pas de l'acceptation ou de l'inclusion que ça prend. Ça prend pas des qualités spéciales d'humanité pour qu'un truc soit un fait. C'est peut-être juste de savoir ce que c'est. À quelque part, j'avais hâte de terminer le projet pour pouvoir me lancer dans le vrai travail, celui à long terme à propos de moi, sans le devoir un peu artificiel d'avoir à vous en parler. Mais je sens que je vais surtout avoir un deuil à faire de ce projet-ci. Entre autres, en fait principalement de la facilité avec laquelle je peux vous parler en ce moment. Parce que la prochaine fois qu'on va se parler, ça va être dans la vraie vie. Et ben, vous risquez d'être là. Et donc, je devrais être pas mal moins fluide qu'en ce moment. Ça va être correct. Ça prendra le temps que ça prend. Un immense merci d'abord aux trois orthophonistes qui ont accepté de me venir en aide dans le processus, Anne-Moïse Richard, Geneviève Lamoureux et Judith Labonté. Puis à Marcel Sabourin, Chris Constantino, Alain Cadotte, Simone Falk, Luc de la Rochelière, Dramatique, Denis Hamel, Nathalie-France Forêt, Benoît Tremblay, Noémie Crépeau, Manuel Légaré et surtout Nicole McGee, sans qui je pourrais pas être amoureux d'elle. Lisa-Marie Noël m'a aidé à la recherche, Patrick Knoop a fait le mixage et je me suis occupé du reste. Ça prendra le temps que ça prend est une production de Radio-Canada Audio. Merci tellement de votre écoute. C'est le genre de projet qu'on fait une seule fois dans sa vie et j'espère qu'il y en aura d'autres. Et encore une fois, je me comprends.